très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci d'être là. Ça fait toujours plaisir de vous avoir ou d'être en contact avec vous, bien sûr, dans cette émission Club de la Presse. Il est 11h et vous comprenez que nous sommes au mardi 30 juillet 2024. 11h, c'est le coup d'envoi, alors l'heure du coup d'envoi de l'émission. Et nous sommes au deuxième numéro de l'émission pour le compte alors de cette semaine, bien sûr. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daou, La Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous nous suivez également dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi Facebook et également des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Il y a Eric Parcoudjo, Josserone. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers invités, chers confrères, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Bien démarré la semaine?
Oui, ça va, un peu. On ne peut pas dire mieux.
Tout à fait. C'est l'essentiel. Nous avons le souffle de vie.
Merci.
Voilà. Adama Dronou, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous occupent sur la 93.5.
J'espère que vous allez bien.
Oui, par la grâce de Dieu.
D'accord, c'est par la grâce de Dieu. Je pense quand même que c'est cette grâce-là que nous implorons chaque jour. Et nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent hein, sur les lits d'hôpitaux et actuellement. Et aussi, vous qui nous écoutez, sachez que déjà à partir de midi, vous aurez aussi cette opportunité d'intervenir dans cette émission. Ça dit de participer à cette émission et c'est sur nos deux numéros, les 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous contacter, vous pouvez intervenir dans cette émission et également proposer votre analyse selon les sujets débattus ici au Club de la Presse. Vous savez que nous sommes au mardi. Mardi, il y a déjà notre chroniqueur littéraire qui est avec nous, Tis Claude. Assiobo, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça peut aller.
D'accord, nous avons commencé une aventure depuis quelques temps et cette aventure, c'est une aventure littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler de la place et du rôle de l'écrivain dans la société. Et pourquoi a-t-on l'habitude alors de classer les écrivains parmi les rêveurs?
Vous savez, l'écrivain, c'est d'abord un produit de la société, hein. Mais c'est un conscientiseur. Et pour conscientiser, il doit prendre de la distance. Hein? Baudelaire l'appelle le prince des nuées. Lorsqu'il est parmi les hommes, il est cloué. Et Victor Hugo même dit, c'est quelqu'un qui a les pieds ici, les yeux ailleurs. Et il doit bien observer pour renvoyer à la société sa propre image. Et pour le faire, il doit prendre de la distance. C'est ça qui lui donne l'air d'un rêveur. Et n'oubliez pas, hein, rêveur, bon, ça dépend. N'oubliez pas que la littérature fait partie des matières nobilisables.
Ça fait partie alors des...
Des nobilisés, disons, si voilà. Je peux même dire nobilisés. Oui.
Des nobilisés.
Oui.
D'accord. Alors, avant que les gens nous reconnaissent, justement, il faut qu'ils lisent. Alors, or, nos sociétés sont, comme vous le dites, analphabètes ou bien moins inscrits. Et ceux qui alors sont inscrits, alors ne lisent pas. Et concrètement, qu'est-ce que l'écrivain, quel est ce rôle authentique alors du rôle de l'écrivain dans la société?
Non, c'est que... vous me dites ce qu'il fait, et c'est ça. Le problème en réalité, c'est quoi? Les gens réduisent la littérature au roman. Il n'y a pas que le roman, la lecture pue. Le théâtre, c'est la littérature, c'est l'écrivain. Le dramaturge, c'est un écrivain. La scène, hein? Les contes, c'est toujours la littérature. Un conteur, c'est un écrivain. Hein? Même le récit, un poète, il peut avoir un récital de poèmes. Même le roman, il y a ce qu'on appelle des spectacles, des petits spectacles. hein, et c'est tout ça. Et puis, il peut y avoir même une collaboration entre la lecture et le cinéma. Hein, c'est ce que finalement Samuel Ousmane a fini par faire. Hein, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de. C'est une communication qui peut être multiforme, hein, qu'on peut adapter. Donc, même si dans un milieu analphabète où les gens lisent moins. Voilà.
D'accord. Alors, on sait que le menuisier, hein, fabrique des meubles et que le médecin soigne le corps. Alors, quels sont les instruments, les outils que l'écrivain utilise pour arriver vraiment à ce rôle que vous venez alors de définir?
Oui, disons plutôt, au lieu de dire les outils, je vous ai déjà dit ça, c'est l'observation, c'est l'émotion, tout ce que vous voulez, mais son rôle est un peu multiple. Hein. Et il y a le. D'abord, l'écrivain, c'est quelqu'un qui divertit, hein, avec de belles histoires. La société en a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de plaisirs plus fins que les plaisirs vulgaires. L'écrivain joue ce rôle. Hein. Bon, il y a. N'oubliez pas, l'écrivain, c'est quelqu'un. C'est un maître de l'émotion à communiquer l'émotion. Hein. Et vous savez, les idées sont très fortes et lorsqu'elles sont habillées d'émotion. Et celui qui est capable de mieux le faire, c'est l'écrivain. Hein. Et c'est pourquoi c'est un sensibilisateur. On lui communique le rôle de défendre les valeurs, hein, de communiquer les valeurs de la société à travers son outil d'émotion, de tout ce que vous voulez. Et puis il y a aussi l'écrivain, il sert à une cause, hein, à défendre une cause sociale et politique. Hein, politique, hein, c'est ce qu'on appelle souvent l'engagement
également, voilà. Oui, intéressant justement à cet aspect, c'est-à-dire l'écrivain et l'engagement. Alors, a-t-on besoin, j'allais dire, alors d'être écrivain d'abord avant d'être engagé?
Non, je crois que il y a plusieurs formes. On peut être engagé dans la société, ça veut dire servir une cause politique, rien que par son renom, sa renommée, hein. On peut le faire également par la presse. Hein? On peut le faire par la presse. Mais pourquoi? Et on peut le faire par le livre. Pourquoi on insiste tant sur l'engagement de l'écrivain? C'est parce que lui, comme je l'ai dit, il est le maître de l'émotion. Hein? Il est le maître de l'émotion. Il a des outils et il a des dons. Il a un don de communication et d'observation que les autres n'ont pas. Et puis, à part ça, il peut aussi se servir des autres outils dont j'ai parlé, son nom, hein, et la presse. Hein. Il y a même des écrivains qui deviennent des journalistes en temps de crise. On a vu ça avec Camus, hein, qui a créé Le Combat. On a
vu ça avec Albert Camus.
On a vu ça avec Jean-Paul Sartre, qui a créé Les Temps modernes en temps de guerre. Même la négritude a créé un journal comme L'Étudiant Noir, Présence Africaine, pour aller plus vite, parce que tout le monde ne lit pas les livres. Hein, vous voyez ça? Donc, c'est ça l'écrivain.
On connaît même d'ailleurs aussi cette écrivaine sénégalaise, Fatou Diom, je veux bien dire, qui aussi s'engage, hein, sur la question de l'immigration surtout.
Oui, bien sûr, c'est ça. Et ce que je peux ajouter, c'est que particulièrement l'écrivain, comme il fait partie de l'élite, sa renommée, lorsqu'il devient célèbre, il est dangereux. Il est dangereux pour les pouvoirs en place. Hein. Vous avez vu avec Yoweri Soyinka au Nigeria, Ken Saro Wiwa, ce n'est pas un écrivain, par exemple, ce n'est pas un simple footballeur. Bon, il peut parler de l'élite. Et s'il prend la parole et il parle, et ce qu'il va dire d'une façon articulée et très profonde, et ça peut bouleverser les sociétés. On l'a vu avec la littérature française, tout ce que vous voulez. Et c'est pourquoi les bourreaux de l'histoire se méfient beaucoup, 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 beaucoup de lui.
Alors finalement, est-ce que c'est un choix ou bien c'est la littérature même qui dit ou qui impose cet engagement?
Oui, mais il y a l'époque. Hein, vous ne pouvez pas être dans un environnement de crise et parler, par exemple, des papillons. Ce n'est pas possible. Vous n'inspirez pas la réalité. C'est ça qui fait.
Comme il est dit, honte à celui qui chante lorsque
Rome brûle. Donc c'est ça, c'est l'actualité. c'est comme ça. C'est l'environnement. Et vous allez voir que toute la littérature africaine, par exemple, est plus tournée vers l'engagement. Parce que nous avons des soucis sociaux. Et nous avons des préoccupations politiques. Vous voyez ça. Voilà.
Donc c'est nos préoccupations qui démontrent aussi cet engagement des écrivains.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'au Togo, nous avons des écrivains engagés?
Oui, mais je peux vous citer au moins trois. Vous connaissez bien Kossi Effi, le plus célèbre des écrivains. Lui fait partie même de ceux qui ont distribué les 30 contes dans ce pays.
En 90.
C'est un appel. C'est difficile à un écrivain de rester en marge de ces choses-là. Et vous avez vu Pedro Amar, qui incendiait pratiquement le régime Yarema par ses articles. Avant même de prendre le livre, il incendiait le RPT. Beaucoup s'en souviennent. Vous prenez quelqu'un comme Dieudonné Hamsa, toute sa poésie, c'est des lance-roquettes.
La révolution.
C'est ça. Il y en a. Sauf que, certains, tout le monde ne peut pas s'engager au Togo. Bon, lorsqu'on a faim, je vous dis qu'on ne peut pas s'engager. Lorsqu'on a faim, et on ne peut pas s'engager. Et ça dépend de quel faim on a. Et ceux qui, si vous avez faim même du confort et du luxe, vous allez carrément vous désengager.
Ce qui veut dire qu'il y a de différentes sortes alors de faim.
Voilà, c'est ça, différentes sortes de faim. D'accord. Voilà la réalité.
Merci beaucoup, Tis Claude Assiobo. Oui, Eric, vous avez une question?
Non, pas une question, mais c'est l'écrivain qui parle de différentes sortes de faim. Et ça se transcrit tout de suite dans les écrits. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes une société en crise. Permanemment. Et quand vous lisez un peu aujourd'hui, j'ai pris le roman de notre frère qui était passé ici à Dambounou. Quand je l'ai parcouru, je sens qu'il est engagé vers un fait de société qui est en réalité l'homosexualité. Il ne le dit pas, mais à travers son écrit, cela se transcrit tout de suite. Parce qu'il demande aux jeunes de s'abstenir jusqu'au mariage. Pour éviter quoi? Pour éviter les transgressions qu'on retrouve la sexualité. Et surtout, parce que nous prenons tout de l'Occident sans véritablement faire beaucoup de jugeotes. Et c'est là où il tombe sur la l'homosexualité qu'il défend en tant qu'écrivain d'abord et après en tant que chrétien.
Il le conseille. Il ne défend pas. Bon, ça peut créer la confusion.
Il critique vertement l'homosexualité.
D'accord.
Parce que vous savez, aujourd'hui aussi, il y a cette tendance là. Il a parlé tout à l'heure de l'écriture et du cinéma. Je veux dire que quand vous regardez les films occidentaux surtout, vous avez une partie où on met en scène des homosexuels. Et je me demande si les romans qu'ils prennent pour préparer leur film en parlent. Parce que c'est là aussi une question de communication par rapport à la chose.
Oui, mais c'est tout un long sujet. Il faut chacun. Je crois que en Afrique, nous ne devons pas nécessairement. Nous avons nos thèmes qui préoccupent. Il y a des thèmes préoccupants. L'Occident en mal de sensations, en mal de je ne sais pas quoi. peut se permettre certaines choses que nous, on ne peut pas faire ici.
D'accord. Merci beaucoup, Claude Tissassiobo, d'être passé dans cette émission. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Ça fait toujours plaisir.
C'est à moi de vous remercier. À la prochaine.
À la prochaine, bien sûr. Alors, sans transition, nous recevons un autre invité, c'est Monsieur Komi Nassini. Monsieur Nassini, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
À Canal FM.
Voilà. J'espère que vous allez bien.
À merveille, surtout quand on est au milieu de des journalistes comme vous, on ne peut que se sentir bien.
D'accord, ça fait plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes alors le directeur général adjoint de l'agence Éducation Développement, et nous allons parler des IFAD à travers notre intervention alors de ce matin. Alors, c'est quoi la liaison d'abord, ou quelle présentation alors vous faites de votre agence?
Je vous remercie. L'agence Éducation Développement, comme son nom l'indique, AED, est une agence mise en place pour allier l'éducation au développement. Et donc, c'est une agence directement rattachée à la présidence de la République, donc une vision du chef de l'État, pour un peu venir en appui au secteur prioritaire de notre économie, en mettant en place des formations qui répondent aux besoins du marché du travail, qui répondent aux besoins des secteurs du Togo, qui répondent aux besoins de nos consommateurs pour pouvoir booster l'économie et pour pouvoir booster la production également. Ce que je dis peut être abstrait, je vais vous donner un exemple. Le premier IFAD qui a été mis en place, c'est l'IFAD aquaculture. Et alors, c'est pour booster le secteur socio-économique, le secteur agricole, qui est un secteur clé. Et c'est en même temps pour apporter une solution aux besoins des populations en produits halieutiques dont nous sommes dépendants à plus de 70%. Et c'est également une formation professionnelle où vous faites de la pratique durant votre formation afin que quand vous sortez, que vous puissiez être très rapidement opérationnel. Que vous puissiez, par exemple, vous installer, vous prendre en charge vous-même.
Voilà. Alors concrètement, quelles sont les différentes formations qui sont disponibles aujourd'hui dans les IFAD?
J'ai déjà parlé de l'IFAD aquaculture qui a déjà sorti deux promotions. Je vais également vous dire qu'il y a un IFAD dédié à l'élevage. Et l'IFAD aquaculture à El Avagno, donc dans les plateaux, dans le Moyen Mono. Et nous avons le deuxième IFAD qui est l'IFAD élevage à Barkwassi. C'est dans l'OTI où nous formons au bac pro élevage qui intègre le développement de la laiterie au Togo. Et comme je vous avais dit que c'est selon les besoins socio-économiques que les formations sont mises en œuvre, pour les produits laitiers, nous savons tous, si vous avez pris le petit déjeuner en venant, vous allez voir que le lait, par exemple, que vous avez pris n'est pas togolais. Voilà, donc nous sommes dépendants à plus de 70%. Donc dans ce que nous entendons par élevage qui est mis en place à Barkwassi est un dispositif qui prend en compte toutes les espèces allant des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, de la volaille qui intègre le poulet et la pintade. Et nous avons un pôle très important qui est le développement de la laiterie. Et donc, comment développer la laiterie? La question se pose. Et c'est vraiment de mettre en place des espèces laitières. Quand nous savons que nos vaches au Togo nous donnent 1 litre, au maximum 1,5 litre par jour, vous ne pouvez pas vous installer pour être producteur de lait avec. Et donc nous avons mis en place un dispositif de développement d'espèces laitières pour au moins qu'à l'image des éleveurs en Europe, si vous pouvez avoir une entreprise familiale avec 3 vaches, 5 vaches, pourquoi pas, même beaucoup moins, vous pouvez avoir, si vous avez une seule vache même qui vous donne 20 litres de lait par jour, vous avez une entreprise. Et donc, nous avons commencé le développement des espèces laitières et nous avons déjà fait des croisements qui ont déjà donné des résultats. Et donc, nous avons aujourd'hui une première génération de métis croisés avec nos vaches locales appropriées et avec des espèces occidentales qui sont très abondantes en produits laitiers. Et également en viande. Parce que quand vous voyez ces espèces-là, je peux vous donner un exemple. À 8 mois, nos métis avaient le poids de nos vaches adultes ici. Et donc, c'est en même temps des espèces viande, mais très abondantes en lait. de sorte qu'avec la première génération des métis, on puisse avoir entre 10 et 15 litres par jour. Et dans la deuxième génération, quand on va croiser les métis entre eux, on va atteindre les 20 litres par jour. Mmh. Et pourquoi le croisement, alors qu'il y a des espèces laitières en Europe? C'est que quand vous amenez de ces espèces sur pied, il y a la difficulté d'adaptation à notre climat, à nos réalités. Donc c'est en lien avec les experts de l'université, du département de l'agronomie, que nous sommes en train de faire tout cela pour ne pas s'avancer dans un sens hasardeux. Et donc c'est après une étude scientifique qu'il a été décidé de procéder à un croisement pour avoir des métis nés sur notre sol.
D'accord. Alors, aujourd'hui...
Attendez, j'ai un peu trop tardé sur cette question.
Tout à fait.
Parce que vous avez demandé l'information.
Tout à fait.
Donc, je venais de donner les métiers de l'aquaculture, le métier de l'élevage. Et nous avons allumé l'IFAD dédié au métier du BTP. Et là, nous avons plusieurs formations. Nous avons le gros œuvre, tout ce qui concerne le gros œuvre, allant de la maçonnerie, ferraillage, coffrage, que nous appelons gros aménagement de gros œuvre. Nous avons les métiers de l'électricité et de ces environnements connectés, qui est aussi là, qui est différent du métier d'électricien classique, parce qu'aujourd'hui, vous savez, de plus en plus, on a des objets connectés. Un électricien doit pouvoir faire cette installation et faire la maintenance. Nous avons aussi une filière dédiée au froid et au conditionnement de l'air, qui va au-delà de la climatisation, qui prend en compte des aspects industriels, de climatisation de grands espaces, et y compris aussi même de chauffage, de besoin de chauffage, etc. Et nous avons aussi un pôle finition, qui prend en compte tout ce qui est finition et revêtement, allant du sol, des murs, jusqu'au plafond, et prenant en compte tous les matériaux. Et nous avons enfin une filière menuiserie qui prend en compte la fabrication et l'installation de meubles et le métier de charpentier également.
D'accord. Alors, déjà, depuis l'installation des IFAD alors sur l'étendue du territoire tel que vous les avez cités tout de suite alors dans votre intervention, aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Et est-ce que finalement, il y a des élèves, des gens, comme des apprenants bien sûr, qui sont sortis de là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain?
Pour le bilan, je vous remercie pour cette question. Pour le bilan, je vais vous dire que le bilan, il est très satisfaisant. Et je vais vous le dire, je vais vous dire pourquoi. Le besoin était de créer les IFAD dans des services où on a vraiment besoin de main-d'œuvre et de techniciens qualifiés. Au niveau de l'aquaculture, nous avons déjà sorti deux promotions. La première est sortie en fin 2023. Et la première, fin de l'année 2022 et la deuxième fin d'année 2023. L'idée de mise en place des IFAD, c'est que quand les jeunes sortent, qu'ils s'installent tout de suite. C'est vraiment l'idée. Vous savez, la réalité, elle rattrape. Et donc, nous avons, quand on a commencé la mise en œuvre, cette volonté-là, c'est pas possible tout de suite là, quand un jeune sort aujourd'hui, demain il est installé. Ça, c'est pas possible. Donc, certains interprètent ce langage, qu'on veut que les apprenants s'installent tout de suite. Certains interprètent ça par rapport au temps de préparation de l'installation qui est obligatoire. Donc, pour la première promotion 2022, nous avons connu quelques mois où ces apprenants n'étaient pas encore installés. Mais c'était vraiment une phase, c'est comme la course du canard dans l'eau, où on ne voit pas ses pattes qui travaillent, on pense que ça doit simplement glisser. Donc, aujourd'hui, pour aller droit au but, aujourd'hui, nous avons 95% des apprenants de la première promotion qui est déjà installés. Donc, bien que on a eu besoin de quelques mois, aujourd'hui, c'est une réalité, 95% sont installés. On ne peut pas, avec les humains, prétendre toujours aller à 100%. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui nous disent, on ne veut pas d'accompagnement financier. Et pour être installé, nous voulons chercher nos moyens nous-mêmes, parce que nous sommes musulmans et que notre religion ne nous autorise pas des prêts. Donc ça, vous ne pouvez rien. Et sinon, je vous dirais aujourd'hui 100% d'installés. Et comment s'est fait l'accompagnement? Je vais vous dire aussi pourquoi ça ne peut pas être par une baguette magique. vous ne pouvez pas pérenniser un système si vous remettez de l'argent aux apprenants qui sortent main à main, allez vous installer. Ça n'existe pas. Il faut mettre en place un mécanisme, mettre un fonds de garantie en place et passer par des institutions financières qui, à leur tour, de manière technique, avec tout le suivi nécessaire, financer ces apprenants-là pour que les apprenants s'installent avec des entreprises qui sont de réelles entreprises, avec toutes les contraintes financières, parce que les ressources, la gestion de ressources détermine la fiabilité d'une entreprise. Et donc, c'est ça qui a aussi pris du temps, parce qu'il faut vraiment mettre en place un mécanisme solide. Puisque ceux-là, ils prennent un prêt, ils produisent et ils doivent rembourser pour permettre la pérennisation. Mmh. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à eux. Ils ont eu déjà des pêches, puisqu'on est dans le sens dans le domaine de l'aquaculture. Ils ont déjà effectué des pêches. Et ils ont déjà, pour la plupart, ils ont fait des recettes. Et beaucoup, vous savez, il y a une période de franchise. Donc beaucoup ont déjà même commencé le remboursement vis-à-vis des institutions financières.
Voilà.
Et je peux vous dire, si vous êtes intéressé, que le 8, il y a même une pêche qui est prévue à l'intérieur du pays par un groupe, un regroupement d'apprenants dans le voilà de la première promotion.
Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'IFAD ou par les IFAD. Et quelles sont les conditions et les critères alors d'inscription?
Les conditions, vous savez, pour accéder à un IFAD sont très souples, puisque vous savez, nous avons déjà l'éducation classique qui, malheureusement, a laissé certains sur la touche. Après, nous avons l'enseignement technique, où nous avons aussi des gens qui n'ont pas véritablement pu s'en sortir. Nous sommes à un troisième niveau avec la formation professionnelle en alternance, où on privilégie vraiment la pratique, la maîtrise du métier, le geste professionnel. À ce niveau, si vous faites encore, vous mettez trop de barrières, le rachat envisagé ne va pas être effectif. Et donc, on a vraiment ouvert, et les conditions, c'est d'avoir, puisqu'on forme actuellement au baccalauréat professionnel, la condition au Togo pour avoir le bac, c'est le BPC. Donc, on ouvre à tous ceux qui ont déjà le BPC, mais on ne limite pas. C'est bien au-delà, parce qu'on a quand même parmi nos étudiants des gens qui ont le bac 1, des gens qui ont le bac 2, des gens qui ont la licence. Voilà. On a tout ce mélange. Voilà. Et la condition, donc, c'est avoir le PC au moins et être âgé de 16 à 29 ans. Initialement, si on pensait seulement aux jeunes brevetés, on n'irait pas à 29 ans, vous avez compris. Donc, on avait déjà cet esprit que des gens qui sont dans une orientation universitaire à laquelle ils renoncent, donnez-leur la chance de venir pour se préparer, pour se former à un métier. Donc, c'est pour ça
que quelque chose de pratique.
Maintenant, puisque ce n'est pas un diplôme académique, je vais vous dire l'essentiel du critère, être motivé. Si vous venez, vous nous dites que vous voulez faire l'aquaculture, vos parents sont prêts, et vos frères, vos sœurs, tous vos amis, ils disent que c'est bon. On vous demande vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'aquaculture? Vous dites que vous n'aimez pas, par exemple, de l'eau. On ne va pas vous prendre parce que c'est pas un établissement commercial. Donc, on fait des interviews pour être sûr que le jeune comprend et qu'on forme. Il aime ce métier qui va s'installer pour son propre compte, pour le développement du secteur économique congolais.
Le coût de la formation est à combien?
Le coût de la formation, quand on le donne d'un seul coup, comme ça, les gens disent que c'est cher, mais je vais vous dire que les apprenants jusqu'ici, quand ils arrivent, ils ont les fournitures, ils ont les équipements de protection individuelle, y compris dans le BTP où vous savez que les équipements individuels, ça coûte cher. Tout cela leur est mis à disposition. Et jusqu'ici, ça pourrait changer, mais jusqu'ici, tous ceux qui sont dans les IFAD, comment on appelle, du secteur agricole, ils sont logés toute l'année, ils sont nourris toute l'année, gratuitement. Ils ne payent pas pour ça. Et pour cela, ils ont une contribution de 400 000 à donner. Voilà.
D'accord.
C'est déjà un frein.
Oui,
pour la plupart pour le Togolais lambda, 400 000, c'est déjà un frein. Monsieur
Nassini,
vous nous faites beaucoup rêver. Mais quand je prends cette formation, ces jeunes qui sortent des IFADS, qui doivent s'installer. Comment vont-ils s'installer s'ils n'ont pas les BABA, de l'entrepreneuriat. Comment vous vous y prenez? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, j'ai vu, je ne sais pas, c'est le ministre d'Amipi qui est toujours le directeur des IFAD ou comment, puisque vous, vous
êtes... Il est le directeur de l'AED, l'Agence Éducation Développement.
Voilà.
Les IFAD ont leur, DG.
D'accord. D'accord. Mais j'ai vu le ministre avec une délégation, il y a de cela deux ans, pratiquement trois, à Rennes pour rencontrer des producteurs laitiers en France. Et quand j'ai suivi un peu le dossier, c'était pour signer des accords de partenariat avec ces producteurs laitiers-là et venir implanter déjà une usine de production de lait au Togo. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que les jeunes qui sortent des IFAD vont devenir? Parce que là, on est sur un plan macroéconomique. Ces jeunes-là, de petits producteurs ou de des apprenants, ils deviennent des groupuscules par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en dites?
D'accord. C'est bon? Oui. Je vous remercie. Merci vraiment pour la question. Vous voyez que je suis acculé par les questions du journaliste qui voudrait qu'on évolue. Donc, je peux vous dire que sur ce plateau, je n'épuise pas tout ce qu'il faut dire tout sur les IFAD.
Parce que le temps aussi,
voilà, le temps est aussi limité et ce n'est pas le seul thème de l'émission. Donc, merci pour votre question qui me permet de développer un côté très important. La formation dans les IFAD est une formation bien réfléchi.
Ouais.
Et avec un modèle systémique où tout se complète, où tout est vraiment mis en place selon un modèle conçu pour être gagnant. Je vais vous le dire, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, quand vous prenez les IFAD, c'est la première fois que quand vous allez dans le système de formation, vous trouvez des référentiels.
Okay.
Nous avons des référentiels de formation. En français facile, nous avons un programme dûment élaboré. Et ce programme, si vous permettez, je vais vous dire comment on l'élabore. Pour que la formation, nous disons que nous voulons que la formation soit professionnalisante, nous disons que nous voulons que le jeune qui sort puisse s'installer. Alors, nous partons de l'étude des besoins, de l'identification des besoins avec les professionnels. Et c'est les professionnels qui nous donnent la liste des activités. C'est-à-dire que, par exemple, si nous voulons former dans le journalisme, l'AED ne va pas aller mettre en place un programme. On va aller vers l'association, etc., des journalistes.
Des organisations, justement.
On leur demande quelle est la liste des activités qui permettent de former un journaliste. Vous allez nous donner toute la liste des activités. Et l'éclairage, le cadrage, le son, etc. Tout ce que vous savez, vous allez nous donner les petits détails, les grands objectifs, les sous-objectifs, les tâches, tout ce que quelqu'un doit savoir faire pour qu'on dise qu'il est journaliste. Et maintenant, nous allons encore travailler avec vous pour que vous puissiez nous dire si dans toute cette liste, si on veut former quelqu'un qui a le CAP, qu'est-ce qu'on extrait? Qu'est-ce que vous voulez que celui qui a le CAP en journalisme ait? Et celui qui a le bac pro, qu'est-ce qu'il est censé connaître dans cette liste? Licence, master, c'est avec vous qu'on définit ça. Une fois qu'on a défini ça, et que par exemple nous, on veut former au bac pro, avec vous, on extrait tout ce qu'il y a comme compétence pour quelqu'un qui a le bac pro, avec la corporation professionnelle. À partir de là, nous, on fait le premier référentiel que les professionnels font s'appelle le référentiel métier ou le référentiel professionnel. À partir de ce référentiel, nous avons fait le référentiel de formation, où nous mettons les objectifs à atteindre et les contenus de cours pour atteindre ces objectifs-là. Et ainsi, la formation, c'est en ce sens qu'on dit adéquation, formation, emploi. Et au dernier point, il y a le référentiel de certification qui définit comment on évalue. Et puis on évalue avec vous, les journalistes. On ne va pas amener des gens qui ont lu le journalisme dans les livres pour venir évaluer des professionnels. Les journalistes pratiquants vont contribuer à l'évaluation des jeunes. Voilà pour le premier volet par rapport à la professionnalisation. Mais au cours de la formation dans nos modèles, Il y a le pilotage de l'entreprise, il y a la gestion de l'entreprise dans les modules. Si vous voulez, vous venez, c'est ouvert, on vous donne un référentiel. Et donc, l'apprenant, il fait tout ce que doit faire un entrepreneur. Il apprend à le faire. Comment écrire un contrat de travail, comment défendre ce contrat, comment le mettre en œuvre, comment soumissionner. On apprend aux jeunes comment piloter l'entreprise, comment gérer l'entreprise, comment élaborer un business plan. Il doit apprendre à le faire. Et tenez-vous bien, tout bachelier, quand quelqu'un vous dit, surtout dans le secteur agricole, qu'il a le bac pro, sachez bien qu'il a soutenu. Il a soutenu son projet. Il a démontré. Parce qu'on rentre, quand je parlais de l'interview au départ, c'est que le jeune est recruté sur la base de son projet professionnel. Donc quand il rentre, jusqu'à sa sortie, il transforme l'idée de projet en projet mûr. Et il soutient devant un jury tripartite. Il y a l'IFAD, un formateur de l'IFAD, il y a un représentant des institutions financières et il y a un professionnel du métier dans lequel il soutient. Et son projet doit être jugé bancable avant qu'il n'aille même à la phase écrite.
Voilà, compte tenu du temps, on va aller rapidement sur cette deuxième question.
La deuxième question, je vais vous dire, on est habitué à ça, parce que les IFAD, vous savez, c'est un concept nouveau. Et l'autre fois, j'ai eu l'honneur, au nom du ministre, au nom du DG de l'AED, de lancer la campagne de recrutement. Nous avons vu les articles. On a remis aux journalistes le dossier de presse, dans lequel nous avions même tout écrit.
Lesquels
on a invité beaucoup de journalistes. Okay. Et nous avons lu des choses opposées à la réalité. Je viens de vous dire que nous avons le taux d'insertion de la première promotion, c'est 95%. On l'a dit, on a donné. Les gens ont dit 67%. Il y a des articles qui... Bon, bref, ce que vous avez dit, je ne vais pas m'en prendre à vous, mais ce que vous avez dit n'a jamais eu lieu. Le ministre d'AMIPI n'est jamais allé à Rennes pour négocier un projet d'installation d'une laiterie autour.
Non, vous m'avez mal compris alors.
C'est une transformation.
Je dis, il a participé à une foire agricole.
Oui.
Et l'idée, parce que moi, c'est moi qui ai fait le papier.
D'accord.
Et j'ai même appelé le ministre depuis là-bas pour lui poser des questions.
Oui, et il vous dit l'idée, c'est d'implanter une usine.
Non. L'idée, c'est de trouver des partenaires capables d'aider à installer des usines laitières au Togo.
On dit la même chose. C'est la substance de votre message.
Oui, bien sûr.
C'est cette substance que je dis qui n'est pas fondée.
Pourquoi
ça n'a jamais eu lieu. Les partenariats que nous nouons, nous avons deux types de partenariats. Il y a des partenariats nationaux. C'est pour impliquer les professionnels du Togo à la formation. Pourquoi on le fait ? Parce que vous ne pouvez pas être dans le BTP, dans un pays, avec des techniques ou des technologies qui ne sont pas de ce pays-là. Chaque peuple a sa façon de construire.
D'accord.
Nous avons donc le deuxième partenariat international. Là, nous travaillons avec des gens qui ont déjà fait de la formation en alternance depuis des années. Parce que l'essor de la formation en alternance qu'on appelle apprentissage en France, ça date des années 70-80. Et donc nous sommes en partenariat avec eux pour voir ce qu'ils font, comment ils font de la pédagogie, comment ils gèrent leur ferme, comment on choisit les espèces, etc. C'est dans ce sens-là que nous avons des partenariats, mais jamais l'AED n'est allé dans le cadre commercial d'implantation d'usines de production de lait. Nous avons des laiteries on a une laiterie au niveau de l'IFAD élevage, où nous fabriquons du yaourt, du lait à boire, du fromage, etc.
D'accord, monsieur Nassim.
Donc, c'est de la gestion
merci
de cette laiterie-là.
Voilà. Monsieur Nassim, merci beaucoup.
C'est très important parce que. Les gens nous écoutent.
Tout à fait. Il faut rapidement quand même. On doit faire savoir quand même que cet entretien, justement, nous menons cet entretien pour clarifier un certain nombre de choses, pour que les auditeurs puissent écouter et comprendre aussi ce que les IFAD font et la manière dont cela marche aussi. Adam, une question pour vous rapidement.
Bon, j'allais économiser ma question vu le temps imparti. Ce que je voudrais en fait dire, c'est d'abord vous féliciter. Vous savez, on se connaît depuis que vous étiez chargé de communication. Et surtout, le lien créé aujourd'hui avec les autres enseignements techniques, en ouvrant, permettant aux autres sorties des écoles techniques de pouvoir suivre. Mais justement, vous félicitez, vous encouragez à faire en sorte que ces étudiants puissent, une chose est de s'installer, mais une chose est de maintenir et de pouvoir résister dans le temps. Puisque ils sont des entrepreneurs spéciaux, ça, nous ne nous trompons pas. Puisque on l'a vu, que ce soit en entrepreneuriat général, que en entrepreneuriat spécifique, ils sont des entrepreneurs spéciaux. Mais faire en sorte que, heureusement, il y a des mécanismes, surtout avec le ministère de l'Enseignement technique, qui permettent de suivre les entrants, les sortants, ceux qui sont engagés, etc. Donc je pense que ce mécanisme fera que, pour qu'après 5 ans, on se dise, voilà, on magnifie, ils sont installés, mais après tout, vous voyez que ça ne marche pas. Mais toujours faire en sorte que ces gens-là puissent être suivis et que cela dure dans le temps.
C'est d'accord. Ce
que
j'aime dire. D'accord. Merci beaucoup.
C'est prévu.
Voilà.
C'est prévu dans le dispositif.
Merci beaucoup, monsieur Komi Nassini. Vous restez avec nous puisque déjà à partir de midi, nos auditeurs pourront entrer en ligne pour vous poser des questions et telles que même les confrères journalistes vous ont posé ces questions ici. Alors, nous sommes rejoints par notre confrère Justin Anani. Justin, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà. Et j'espère que vous allez bien.
Ça va.
D'accord. Dieu merci. Alors, nous allons nous intéresser à certains sujets, hein, certains sujets de l'actualité. Pour notre débat, il nous reste quelques minutes alors pour faire ce débat. Alors, je m'intéresse à ce sujet traité par Vision d'Afrique. Hein, Adam, ce matin, vous écrivez litige foncier à Clémé, Gbouma, Kopé, et vous écrivez l'aigre fine dame bijoux arrêtée et incarcérée à la prison civile de Thiviers. Alors, comment ça s'est passé?
Bon, en fait, je n'avais pas cru avoir une information qui pouvait aussi attirer tant des Togolais. Cela montre l'ampleur, en réalité, de la tonitruante ou des méfaits causés par cette dame au niveau de Bamako-Pé, vu les appels que nous recevons partout ailleurs. Bon, c'est une dame qui a des racines assez profondes, SG, DG, etc., ce qui fait que parmi tous les litiges fonciers là-bas, personne n'a réussi à pouvoir mettre la main sur la dame. Il y a eu des confrères même qui me sont revenus, ils ont travaillé sur le sujet, que c'est, elle est intouchable véritablement. Mais mal lui a pris de croiser le chemin d'un Américano togolais, sur qui ils ont soutiré 143 millions. Il était venu installer un projet, hein, entrepreneur pour employer beaucoup de Togolais. Et imaginez-vous, c'est deux loin, deux lots de terrain qui sont à un coût de 143 millions. Mais il était prêt quand même, il a carrément versé le montant. Or, le réseau est bien ficelé, consistueux de haut perché, ce qui fait que pour vous plaindre partout, vous n'aurez pas gain de cause. Malheureusement, l'Américano Togolais a remué le sommet de l'État contre eux, ce qui a fait que tous ces réseaux-là, son karma écarté et la dame, un bijou qui se faisait discrète et s'est fait prendre par avec son huissier, notamment Mycité, que beaucoup connaissent. On nous a fait comprendre que des milliers d'hectares à Bamako-Pé, vous verrez, Mycité. Et c'est le lieu de féliciter en réalité le nouveau ministre de la Justice qui s'est personnellement engagé dans le dossier et surtout le service de script. Qui s'est également défait de nombreuses promesses faites par la dame, comme cela est l'habitude. Nous nous en tenons au fait, on ne sait pas si le haut lieu n'avait pas instruit, est-ce qu'il pouvait donc faire la même chose, mais nous nous en tenons au fait en disant qu'ils ont fait un travail professionnel parce qu'il y a eu de l'argent qui a été proposé, mais ça n'a pas marché. La dame et Lucie sont déposés à la prison civile de...
D'accord. Justin, c'est vrai que quand on prend cette information, oui, ça, il y a beaucoup d'acquéreurs au niveau, même d'ailleurs de Bamako-Pé et dans d'autres localités aussi, hein, de la capitale, qui subissent même d'ailleurs cette question de litige foncier. Et on pourra dire quand même que c'est un pas qui est franchi, hein, dans cette question de litige foncier au niveau de Bamako-Pé.
Vous dites que Lucie et la dame sont déposés
à la prison. Il y a 2 semaines, en fait, ils sont déposés il y a 2 semaines. C'est vrai, comme je vous ai dit, c'est une information que moi, j'avais trouvée à la légère. Mais bon, je me suis dit, il faut la traiter quand même. C'est là où j'ai compris, en réalité, la profondeur du sujet et concernant donc la dame.
Mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, en fait. J'ai comme l'impression que vous doutez.
Pas que je doute, parce que... Et tu vas voir, Eric et moi, tout à l'heure, on est en train de sourire, parce que cette dame-là, mais pratiquement... Et on la connaît dans la presse. on connaît un peu ses ramifications, ses forces de frappe. Maintenant, si aujourd'hui, la justice s'est mêlée dans ce débat-là et que finalement, elle, l'huissier et la dame, on ne peut que s'en réjouir. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que le président de la Cour suprême a fait une sortie, pratiquement ça fait 2 ans ou plus de 2 ans, sur le comportement véreux de ces huissiers-là, ces notaires, ces commissaires priseurs, ces avocats-là. Et ce sont là des questions qui sont d'actualité le jour. C'est parce que si ces auxiliaires de justice n'arrivent pas à s'acoquiner avec ces gens de personnes, je pense que le problème foncier que nous avons dans la République n'aura plus une telle dimension aussi gravissime comme on constate. Vous allez au niveau des tribunaux, c'est plus de 80% des dossiers fonciers qui sont là.
80%?
Plus de 80%, je dis. Voilà.
Dépasse les 90%, je serai content.
Ah, d'accord. Donc, et ce sont là des phénomènes auxquels on assiste dans notre pays, impuissamment d'ailleurs. Les gens font ce qui est de leur pouvoir pour quérir de parcelles de terrain. Du jour au lendemain, voilà quelqu'un qui débarque pour dire, voilà, la parcelle m'appartient.
C'est tout un village des fois.
Oui. On en a vu également à Bekota, ici à Lomé. Il y a d'autres coins. Et le phénomène s'est transporté en dehors de Lomé ou du Grand Lomé pour aller au-delà de nos contrées les plus reculées, dans les villages pareils. Donc, je pense qu'après ce moment-là, tel que le confrère venait de le dire, si le nouveau ministre de la Justice pouvait peser énormément son poids dans la balance, pour que ces gens-là soient quand même
inquiétés.
Je ne sais pas, j'emploierai le terme exfiltré de la société. Ça nous fera énormément plaisir parce que les problèmes fonciers, ça n'est de trop.
D'accord.
Et le comportement, surtout de ces agents auxiliaires-là aussi, ça n'est de trop. Et ceux-là également qui sont les corps habillés qui en réalité quand même devaient nous aider aussi. Donc je pense que c'est un réseau qui est là. Il va falloir que le ministre puisse quand même jouer clairement sa partition dans ce dossier-là.
Oui, d'accord. Et Eric, c'est vrai que c'est un dossier que nous suivons alors de près. On connaît bien cette question alors de litige foncier à Bamako-Pé. Et c'est vrai, la dame Bijou a été citée maintes fois dans cette question ou dans cette situation. Et elle n'est pas seule. Il y a d'autres également qui sont cités dans d'autres litiges fonciers ailleurs. Quand vous prenez à Kato, vous prenez d'autres localités. Il y a tout toujours quelqu'un de puissant entre griffes derrière, mais qui n'est toujours pas inquiété.
Qu'est-ce qui leur donne cette puissance? Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse régler le problème foncier dans notre pays que la justice. Mais lorsqu'on vient proposer des terrains aux juges, qui en ont certainement besoin, mais le tour est joué. La puissance de cette dame-là, c'est la justice togolaise.
La lui donne.
Quand Adam parlait des bras longs, des hauts gradés, tout ça là, mais tout se résume à la justice. Parce que lorsque le juge prend le dossier et qu'il veut le traiter, mais c'est là où le coup de fil arrive. Mais cette dame-là, elle ne peut pas, on ne peut pas dire qu'elle est hyper puissante et que personne ne peut la toucher. Aujourd'hui, elle se retrouve où? Mais il faut qu'on sache que la roue tourne. Et aujourd'hui, c'est elle qui organise des choses avec ce qu'on appelle les gros bras. Et derrière les gros bras, vous avez des corps habillés. C'est ça qui est malheureux.
Les hauts gradés.
Et là encore, quand tu parlais de village, quelqu'un vient dire, moi j'ai acheté tout un village avec un titre foncier.
Y compris même le domicile du chef du village.
Et on vient sortir le chef du village de son domicile pour qu'il aille où? Avec ses sujets. Mais je pense que c'est un exemple. Et on est dans la 5e République, n'est-ce pas? Il faut que cette 5e République là fasse réellement ses preuves pour sortir les Togolais de ce pétrin foncier, parce que nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Les gens travaillent pendant des années et ils trouvent un petit lopin de terre
du jour au lendemain, on vient leur dire, écoutez, ça, ça appartient à notre aïeul, notre arrière-grand-père, et qu'il a concédé à notre père, et voilà, nous avons tous les papiers. Mais curieusement, ces gens, quand ils arrivent, c'est avec des documents officiels. Ils trouvent ça où ? Actuellement, il y a un problème qui se passe vers Vacmosito ou je sais pas. Mais hier, j'apprends que la dame a acheté de l'eau depuis 20 ans. Et quelqu'un vient se présenter aujourd'hui, elle a fait tous les papiers dessus. Quelqu'un vient se présenter avec un titre foncier sur le même site depuis 20 ans. Mais lui, il a eu son titre foncier il y a un an.
D'accord. Un problème pareil à TV actuellement.
Mais comment ça se fait
au tribunal de TV actuellement,
quand vous allez à l'urbanisme, vous avez déjà avant c'est les trois tampons, aujourd'hui c'est un tampon. Vous avez les trois tampons, mais c'est marqué. Mais comment les gens arrivent à estiper ce dossier-là pour faire un autre dossier à quelqu'un d'autre qui vient le lendemain? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tout se résume à notre justice. Quand vous avez quelqu'un qui est déjà dans une maison depuis des années, on le sort comme ça que il n'avait pas bien acheté le terrain.
Bien acheté.
C'est le terme approprié, n'est-ce pas? On n'a pas bien acheté le terrain. Comment on achète bien un terrain? Mais c'est de l'argent qu'on a déboursé. Mais maintenant, si vous avez des problèmes dans votre collectivité, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on fasse attention. Quand nous allons acheter des terrains, dans le temps, sur les terrains ruraux, qu'il y avait cette obligation-là de consulter les voisins pour voir si réellement celui qui vous vend le terrain est propriétaire ou a un lien avec cette propriété-là. Mais si vous ne faites pas ça, vous achetez le terrain comme ça, le lendemain, vous pourrez avoir des problèmes.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a les mairies qui sont mises à contribution pour ça.
Oui, mais les mairies, très sincèrement, ne peuvent pas régler ces problèmes-là. Ça les dépasse. Parce que quand vous prenez cette dame-là, qui prend tout un village, il y a une commune. Le maire est où ? Les conseillers sont où? Mais on lui dit, l'ordre vient d'en haut. Hein.
Et en haut, c'est qui?
En haut? Mais va chercher.
D'accord. Alors, Adam, c'est vrai qu'une chose est de mettre la main sur ces gens-là qui sont les instigateurs de ce problème aujourd'hui. Mais l'autre chose, c'est d'arriver à ce que ces acquéreurs rentrent alors dans leurs droits. Justice soit faite.
Ouais, c'est essentiel. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a de ces influences-là qui ont agi dans le dossier comme à l'accoutumée. On connaît ça, donc le poids de la dame. J'ai dit tantôt, le monsieur que vous connaissez bien, c'est le PDG de ce Kaobiz Security, qui était dans un projet d'installation, de transformation. Il est allé remuer, j'ai bien dit, peser mes mots, il est allé remuer le sommet de l'État sur eux. Je pèse mes mots. Il est allé remuer le sommet de l'État sur eux. Donc c'est le ministre personnellement qui s'est investi dans ce dossier. Donc, vous convenez avec moi.
Comme quoi, il faut avoir aussi quelqu'un au sommet de l'État avant quand même que la justice...
De toute façon, l'essentiel est que je vous dis, les plaintes s'accumulent, les plaintes vitamment s'accumulent. Depuis qu'elle est arrêtée, il y a 2 semaines, elle n'est pas arrêtée hier. Elle coupie à la prison civile de Thiéville, il y a 2 semaines. Les plaintes s'accumulent. Ça voudrait dire quelque part que pour la libérer ou partir de rien pour venir libérer la dame là, il faut également que le sommet de l'État soit informé. Sinon, c'est un dossier qui est aujourd'hui pris en main au sommet de l'État, qui le suit de tout près.
D'accord.
Donc, ce serait difficile de juste. Je pense que ce serait difficile.
Je pense que ça serait malsain d'évoquer que c'est le sommet de l'État qui a décidé.
Non, je sais pas que c'est qui a décidé.
Et que c'est parce que.
Non, c'est pas. On n'a pas fait en torse aux procédures judiciaires, pas du tout.
Mais c'est parce que.
Justement, pour que rien ne soit, en tout cas, torqué, voilà pourquoi le sommet de l'État, le ministre lui-même suit. On n'a pas dit qu'il y a eu entorse à la procédure judiciaire.
Non, je ne dis pas le contraire non plus.
Non, quand tu dis « a décidé », c'est autre chose. Ouais,
non,
dit, hein.
Non, ça dit que...
Non, mais non, quand on le dit, c'est parce que les acquéreurs criaient depuis, oui. Mais comme eux, peut-être ils n'avaient pas quelqu'un au sommet de l'État...
Ouais, beaucoup ont été victimes de ces genres de comportements, ces genres de pratiques. Mais c'est parce que elles n'ont pas eu la chance peut-être de toucher le sommet de l'État pour que véritablement leur doléance soit prise en compte. C'est le constat, malheureusement. C'est là où moi je dis qu'il faut revenir sur les valeurs, qui sont des valeurs fondamentales. La République, c'est pour nous tous. Ça veut dire que lorsqu'il y a droit, il va falloir que le droit soit dit.
Mais surtout l'indépendance de la justice.
Tout à fait. Mais lorsque c'est parce qu'il y a un haut gradé, il y a un juge intouchable quelque part, et qu'avec ce genre de relations, voilà, on décide. Quelqu'un qui a acheté un terrain peut-être dans les années 1970, et du jour au lendemain, peut-être de 1984, quelqu'un présente un reçu d'acquisition et finalement on lui donne droit par rapport à ce qu'il a, celui-là qu'il a acheté en 1970. C'est autant d'anomalies qu'on constate. Mais maintenant, quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se passe là, c'est parce que la personne a quelqu'un derrière. C'est là où moi je dis, pourquoi forcément qu'on doit avoir quelqu'un sérieusement derrière, mais que ce soit une république où la justice soit indépendante. Et lorsqu'il était question que le droit soit dit, qu'on le fasse dans la règle de l'art.
Non, c'est mais Pascal, vous savez, en réalité, je suis pas en train de contredire mon frère, mais ce qui est marrant, c'est que d'habitude, lorsqu'on prend la procédure, c'est la justice également qui intervient et dit le droit. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour apprécier le droit qui est dit ou pas. Mais si on a la chance qu'on puisse avoir un regardant du sommet de l'État sur un dossier pour que les autres... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des plaintes qui s'accumulent. Je ne pense pas que ce soit mal. Hein? On suit de près, ça vous a dit quelque part, que les influences que l'on pourrait éventuellement avoir pour peut-être faire entorse au droit ne puissent pas intervenir parce que de toutes les façons, il y aura des alternatives qui puissent intervenir. Voilà pourquoi des fois, je ne comprends pas les amis journalistes. C'est vrai que ce problème qu'il évoque, on l'a toujours évoqué, etc. Mais la dame a toujours eu raison. Mais si aujourd'hui, le ministre personnellement décide de voir clair dans le dossier, je pense que celui qui est en charge de ce dossier-là saura dire le droit tel qu'il est.
D'accord.
Pascal, juste dans le même sens, excusez-moi. Nous sommes tous Togolais, citoyens togolais, à un niveau ou à un autre, nous savons que quand un problème prend de l'ampleur, on se pose souvent la question pourquoi l'État, au niveau, n'intervient pas.
Tout à fait.
Donc s'il nous dit que l'État est intervenu devant ce problème, je pense que c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose. Et les autres, je pense que...
Elles sont contraires.
Non, ce qu'il dit n'est pas nouveau. On l'a toujours dit. Mais la dame a toujours gagné.
Non, ce
que vous dites... Mais de toute façon, on n'a jamais été inquiété.
Ce que Justin est en train de dire, c'est que nous sommes des citoyens, nous avons des institutions qui fonctionnent. Quand nous avons des problèmes, nous nous tournons vers la justice. Mais si la justice ne peut pas régler nos problèmes, c'est qu'il y a un problème.
Ah oui, justement.
Oui, justement. C'est ce qu'il est en train de dire.
Oui.
Et aujourd'hui, ce n'est pas au plus haut sommet de l'État de venir dire ce que cette institution, qu'est la justice, doit faire.
Non, mais maintenant, on a dit ça.
Maintenant, nous parlons de la justice. Il y a un ministre de la justice et qui, désormais, est regardant dans tout ce qui se passe dans le foncier, et il peut intervenir en demandant pourquoi les dossiers-là n'avancent pas. Les citoyens se plaignent de la même personne. Qu'est-ce qui se passe? D'où l'intervention, ça se comprend. Mais dire que c'est au sommet de l'État qu'on a décidé de prendre cette dame-là, c'est un peu aberrant par rapport à la société.
C'est là où je dis, ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit ça.
Non, Adam, vous avez dit,
et surtout, d'ailleurs, même moi, j'ai suivi des magistrats qui refusent à ce que le ministre puisse intervenir dans les dossiers judiciaires. Il y a des magistrats qui le refusent. Et le droit, d'ailleurs, même lorsque vous prenez...
Mais ça a été même l'objet d'une grève des juges.
Il y a séparation de pouvoir. Le juge, le ministre ne peut pas intervenir comme ça dans un dossier du justice, parce que le ministre, ça n'existe pas. Et je me rappelle, c'était le juge Sronvi qui a dit que les titres fonciers sont attaquables. Et il a eu attaqué des titres fonciers, justement parce que c'est pas parce que vous avez l'argent, vous avez précipité, etc. Et vous croyez que vous posez des questions. Il n'y a pas lieu de pouvoir dire carrément, il y a des juges qui font bien leur travail.
Le juge, je vous
dis,
il est où?
Et je vous dis, qu'il y a des titres fonciers qui ont été attaqués, retirés dans ce pays. Donc ne noircissons pas le tableau.
Monsieur
et justement ce que il dit,
Pascal.
Oui, le monsieur a alerté de ce problème de pas pour faire attention à la politique judiciaire.
On sait que chaque journaliste doit respecter la déontologie.
C'est ça.
On le sait. Mais
si vous parlez dans le micro,
chaque journaliste connaît la déontologie, doit la respecter. Mais vous avez une organisation. Il y en a plusieurs. Donnez-moi un nom.
Oui, Kona.
Kona, voilà. Fugit, voilà. Fugit. Mais à côté de cette autonomie de chaque journaliste, voilà, de travailler selon les règles de l'art, mais si à un moment donné, à son niveau, il y a,
oui,
il
nous
y a
avons un problème, le problème qui le joue.
Voilà. Au haut niveau de l'organisation,
il agit.
On réagit.
Et on interpelle.
On réagit. Donc, quand vous dites que la justice, c'est la référence, c'est l'institution à laquelle on doit se référer quand on a un problème, et que si la justice est en panne, c'est un problème. Non, je pense que c'est pour ça que la justice aussi est sous tutelle.
Ouais.
Et le ministre, la justice est sous la tutelle du ministre.
Du ministre.
Et généralement, je pense que de manière autonome, de dehors, il regarde, mais s'il y a des aspects sur lesquels il faut arbitrer.
En fait, ce que nous disons, je comprends bien Eric et Justin, c'est que, allez, il y a des citoyens qui ont eu alors ce problème depuis, ils ont crié, mais personne ne les a écoutés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait ce même problème et remis alors le sommet avant quand même que la décision ne soit prise.
C'est non, de ça que la décision, en fait, la décision n'est pas prise sur le plan judiciaire ou la procédure judiciaire. C'est ce que je dis. La procédure judiciaire, elle est la stable. Et je vous ai dit tantôt qu'avec la séparation des pouvoirs, vous pensez, ce que les citoyens pensent, hein, que la justice ou le ministre de la justice peut intervenir sur un dossier qui tourne anormal. C'est pas vrai! Le ministre de la Justice, comme le disait Eric, c'est pas possible.
D'accord, ok, merci.
Mais ici, voilà.
Merci.
Mais ici,
je pense que
mais ici, non, madame, c'est un troisième larron qui est là.
D'accord, merci beaucoup, madame.
Je suis bien, merci. Vous ne l'avez dit pas, c'est vrai qu'il y a des.
Madame, merci. Merci.
Nous allons revenir sur ce sujet. Sur la base de l'indépendance de la justice, je pense que cet aspect-là doit être quand même coloré. C'est-à-dire qu'il y a débat en matière, parce que lorsqu'on me parle de l'indépendance de la justice au Togo, il y a tout un problème.
Mais je suis d'accord. Alors, rapidement, je pense quand même que notre temps est déjà avancé et que nous allons donner maintenant l'opportunité à nos auditeurs, hein, qui s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Je rappelle que nous sommes toujours avec Monsieur Nassini Komi. Il est toujours avec nous. Voilà le premier auditeur que nous avons en ligne. Allô.
Bonjour, Paranatom.
Bonjour, Richard.
Bah,
comment vous allez?
Je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si je parle
Oui, Richard, allez-y. Copenhague, allez-y.
J'aimerais poser une question au monsieur Benoupat, le technicien, l'entrepreneur, je pense. Bon, tout d'abord, bonjour à Paranatom. Bonjour, journaliste. Ambroise, je te salue. Ambroise, bonjour.
Non, Ambroise n'est pas là.
Et j'aimerais savoir qui sera ma question. Ma question, je suis un peu perturbé. Ma question est celle-ci. Moi, je suis un technicien de bâtiment. Je vais être formé ici sur le cadre. Je vais sur le boulot parce que je n'ai pas droit. Mais ce que je vois se faire au pays, c'est un terrain totalement différent. Cet formateur, il va me chercher. Au pays, ce qui a été toujours fait dans le passé comme nous connaissons, je vois un immeuble d'un baron qui se lève à plus de 500 millions. Mais tu rentres dedans, la punition, elle est totalement naze. Le matériel que nous utilisons au pays, ça ne comprend pas. Mais comment, quelle différence il sera? Je ne sais pas, parce qu'il parle de technicien en électricité, il parle de la peinture bâtiment, mais nous construisons, nous savons que le pays compte tellement d'humidité. Nos bâtiments n'ont jamais été protégés contre l'humidité.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il fera comme différence? Je vous remercie.
Ok, merci beaucoup Richard depuis Copenhague. Là, vous nous avez appelé.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, comment vous allez? Allô?
Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, voyou.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va.
Votre nom, c'est?
Hervé de Vakbosito.
Hervé depuis Vakbosito, allez-y.
Tout d'abord, je dis merci à l'homme de Isadra. Et courage à eux. Parce que j'ai un petit qui est passé par là. Pour le moment, il est toujours content. Hein. Donc, merci à eux.
D'accord.
Et j'ai dit, concernant l'affaire du terrain, là, vous savez que, présentement, là où l'homme est là, ce qui va tuer l'homme sur cette terre, si ce n'est pas terrain, c'est affaire de divorce. C'est les deux dossiers là, si vous allez à la justice là. C'est ça qui est un peu plus élevé que les nationalités, les papas qu'on fait là-bas. Donc, si nous disons merci à notre ministre de la Divi de continuer dans le même sens que ceux qui n'ont pas aussi l'exam ou bien ceux qui ont l'exam. Mais, par exemple, mon papa, il avait un dossier là-bas depuis 2018. Il n'avait pas de solution. Mais c'est tout récemment que quand le ministre est arrivé, qu'il a pu trouver solution à ce problème là-bas. Mais il n'avait personne aussi qui m'a dit comme ça. Donc, bien sûr, au ministre.
D'accord. Merci beaucoup, Hervé, hein, pour ce témoignage édifiant. Alors, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibiti.
Vous savez, au Togo, il faut prier Dieu pour ne pas avoir de problème. Il faut que les juifs aient un bon cœur humain, craindre Dieu, savoir que même si vous avez 1000 euros, un jour vous partirez pour les laisser. Vous voyez, les autorités dont vous parlons, c'est ça. Vous savez, vous pouvez, la question de terrain, moi ici, si vous pouvez acheter, vous pouvez acheter votre terrain en 1960-70. Ben, il va venir vous dire qu'il a acheté tout de suite. Il va vous présenter un dossier propre. Moi, il y a une erreur sur mon terrain. Vous voyez? Cette erreur-là, au lieu de combien d'hectares, mais on dit que c'est chose, la mer-là. Alors que j'ai acheté le mien en 76, vous voyez, ils ne font pas le... C'est la haute autorité, là, la tête qui peut taper. Ceux qui disent que ce n'est pas la tête, c'est la tête qui peut taper. Ça vient à ta famille. La même chose, l'autorité. Nous, on nous a compris. Moi, j'ai été compris à la, aux choses, à la gendarmerie. Mais le préfet... Il va vous prendre au jour de l'examen végétarien, on ne vous tire pas l'entrée. Ce pays-là, le président de la République doit se dire, c'est lui qui est la tête, le bon préfet qui a fait ta femme, c'est le ministre Bojona, le préfet Bojona, le père du ministre Bojona. Vous savez, ce pays, il faut le revoir. Le cœur doit illuminer les gens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention au Club de la Presse 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse lors de ce mardi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse, hein, de aujourd'hui 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô? Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, on a le seul.
Oui, diminuez le volume de votre poste à côté de vous, s'il vous plaît.
Ok.
Votre nom, c'est...
Oui, je m'appelle Gontran depuis Blincomé.
Gontran depuis Blincomé, allez-y.
Alors, je félicite beaucoup ceux qui sont au plateau. Je salue de passage Justin et Eric. Alors, le débat que vous tenez, c'est un débat courageux. Parce que affaire de terrain au Togo, là, c'est tellement difficile. Et lorsque Eric parlait, moi, je voyais en ça une intervention par rapport au bas peuple. On imagine celui qui est depuis Bengal et qui n'a personne et qui a un tel problème. Comment est-ce qu'il va se prendre pour pouvoir résoudre le problème? Alors, entre-temps, un journaliste parlait du rôle du maire et des préfets. En réalité, tous ceux-là sont impliqués. Lorsque vous pouvez voir quelqu'un qui a habité un endroit plus d'un siècle et demi, mais un jour, quelqu'un vient dire que c'est à lui et c'est accomplissé avec le chef canton, le chef du village, le maire, les appuis, ainsi que le préfet. Alors, vous pouvez même demander une attestation d'exploitation provisoire qui doit se faire en 2 mois. Ils vont bloquer le dossier pendant 1 an et donner l'autre partie à votre insu. Alors, ce problème, il faut que le ministre de la Justice revoie et passe voir tous les dossiers et taper sur la tête des gens, comme l'autre disait. C'est très important. Parce que ce problème, tous les juges sont presque corrompus. On va pas quand même emballer tous les juges, mais il y en a qui font un travail professionnel.
D'accord.
Okay, merci.
Merci beaucoup, Gontran, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Bonjour. Allô, bonjour, comment vous allez? Allô, bonjour. Allô. Décidément, il n'a pas de retour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Quand vous nous appelez, ou si vous nous appelez, ayez au moins un poste récepteur à côté pour avoir le retour. Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bonjour, le plateau.
Oui, votre nom, c'est?
Moi, c'est Natiba.
Natiba.
Oui.
Allez-y.
Je salue mon précédent. Tout ce qu'il a dit, c'est ça. Le ministre de la Justice doit prendre le problème-là à prendre le corps. Parce qu'il y a beaucoup de faibles dans cette affaire qui tombent, qui perdent tout. Que le ministre se penche là-dessus. Même si c'est le président de la République même qui a des problèmes de terre. Et on juge, on sait qu'il a tort. Il va reconnaître que ce n'est pas pour lui. Et puis, ça s'en va. Mais sincèrement, dans ce problème, le Togolais perd trop d'argent. Les gens souffrent énormément. Sincèrement, il faut que vraiment, même tout le gouvernement doit se pencher sur cette affaire. Sur tout le Togo, ce n'est pas Lomé seulement. De Lomé jusqu'à Finkassé, là, c'est rien que des problèmes fonciers. Pardon, que l'État nous aide. Merci et bonne émission.
D'accord, merci beaucoup Natiba pour votre intervention.
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez? Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Décidément, il n'a pas
le retour. Bonjour, Canal FM.
Allô, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, Canal FM.
Bonjour. Vous allez bien?
Allô.
Allô, décidément, il n'a pas de retour aussi. Hein? Alors, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi. 90, 86, 35, 35. Allô.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Gadeau.
Oui, monsieur Gadeau. Comment vous allez?
Oui, bonjour à mon ami Eric. Je voulais lui poser une question. Moi, j'ai une affaire avec un avocat et on devait lui donner un terrain. Il a pris 2 terrains à la place d'un seul terrain en disant au tribunal que le terrain a perdu sa valeur. Est-ce qu'un terrain peut perdre sa valeur alors qu'il a une maison à l'état là-dessus? Merci, bonjour.
Merci et bonne journée aussi. Bonne journée à toi aussi, Monsieur Gado. Et je pense que Monsieur Gado c'est le dernier auditeur hein, pour le compte lors de cette émission de ce mardi. Alors nous revenons en plateau. Et Monsieur Nassini, vous avez écouté les uns et les autres, mais je pense qu'il y a Richard depuis Copenhague qui vous a interpellé et vous a posé une question. C'est par rapport même au problème de matériel et ou la construction même d'ailleurs de nos bâtiments ici. Qu'est-ce que vous répondez?
Je vous remercie. Je pense que notre interlocuteur, notre auditeur a plutôt apporté de l'eau à mon moulin, puisque je vous ai dit à l'entame de l'émission que les formations mises en œuvre dans les IFAD répondent à des besoins, besoins socio-économiques, besoins de nous-mêmes les consommateurs, besoins dans le secteur observé en général. Et donc les IFAD dans le domaine du BTP sont issus d'une analyse du secteur du BTP. Et il a été constaté un vrai besoin de personnes qui savent bien faire le travail. Et c'est pour ça que les professionnels du BTP nous ont dit un IFAD dans le secteur, ce serait très bien. Comme je vous ai dit, les formations, ça démarre avec sur la base des échanges avec les professionnels du secteur concerné. Et donc, aujourd'hui, ce que nous formons à l'IFAD, dans les différentes formations que j'ai énumérées, ils viennent pour apporter une solution justement à tous les problèmes qui ont été énumérés par par l'auditeur, notamment le travail qui ne se fait pas selon les règles de l'art. Donc ça justifie en réalité pourquoi il fallait un IFAD dans le secteur du BTP. Si vous comprenez, si vous avez écouté, il m'a confondu à un entrepreneur. Voilà, il pense, pour lui, c'est nous qui faisons tout le travail qu'il juge mal fait, et c'est pour ça qu'il m'interpellait. Mais au contraire, moi, je profite de lui dire, nous, l'AED, c'est nous qui mettons en œuvre les IFAD, et les IFAD qui sont chargés de former des gens qui vont venir apporter des solutions dans le secteur.
D'accord. Et Eric?
Oui, moi c'est Monsieur
Gado.
Gado, oui. Je pense que Monsieur Gado a juste affaire à un avocat vénal. Disons-le clairement. Comment aujourd'hui on peut me dire qu'un terrain a perdu sa valeur? Et même si c'est...
Et donc à la place, alors d'un terrain, on prend deux terrains.
On prend deux, c'est juste que c'est un grand... Enfin, disons-le clairement, c'est un voleur. Il est en train de voler les gens. On ne peut pas dire ça autrement, quoi. Mais par rapport à tout ce que nos compatriotes ont dit, je crois que nous sommes tous dans cette situation. Et aujourd'hui, il y a un ami qui m'a interpellé, un confrère, hein, par rapport à une situation comme telle, à Déticopé. Là, aujourd'hui, vous pouvez même avoir le titre foncier. On peut venir vous sortir de votre maison.
Hein. Comment ça?
Ah oui. Et ça se passe tous les jours. Les gros bras viennent avec derrière des corps habillés et pas des moindres. Il y a quelqu'un qui est dans une voiture, qui regarde tout ce qui se passe et qui donne des directives à ces corps habillés. Mais je vous dis, c'est ce problème-là, je ne sais pas si le ministre de la Justice a commencé là, il faut qu'il finisse à s'incasser pour que les Togolais soient en paix avec le problème foncier.
Parce que c'est tout le Togo qui est concerné.
Tout le Togo est concerné. Même si dans certains milieux, on continue pas lancer des pierres pour avoir des sites agricoles. Mais là encore, on est en train de créer des agropôles, des ZAP et tout ça. On peut encore prendre des terrains des gens parce que les gens voudront qu'ils soient payés par rapport à ce qui ne leur appartient même pas. Donc il faut faire extrêmement attention.
Adam.
Oui, bon, je crois que je n'ai pas été interpellé personnellement sur un sujet, mais je reste sur le sujet du foncier pour dire tout simplement que c'est vrai qu'il y a des verrues dans le corps judiciaire, mais lorsque vous les approchez, je pense que lorsque vous prenez des individualités, vous constaterez véritablement qu'il y a de ces gens-là qui font du bon boulot. Moi, récemment, ce dont je parle il n'y a pas 6 mois, où il y a un monsieur qui est un voisin qui a eu un problème foncier à côté, mais avec son adversaire qui a pris un avocat. Qui a pris un avocat. Lui n'en a pas pris. Mais il a gagné le procès. C'est un procès foncier. Ici à Lomé. Lui n'a pas pris d'avocat, mais il a gagné le procès. Donc, c'est dit quelque part que n'allons pas peindre en noir.
Mais c'est un cas isolé.
Non, ne dites pas ça. N'allons pas peindre en noir le tableau. Il faudrait quand même qu'on puisse encourager les juges à changer ceux qui sont encore dans les autres, surtout avec la volonté du ministre qui veut véritablement voir clair dans les dossiers français. Il a commencé, je pense qu'il y a eu un exemple, à part ce que nous avons dit, un exemple d'un auditeur vient confirmer ce que nous avons dit. Encourageons ceux qui... Mais surtout, je reste également, c'est vrai qu'il y a des forces de l'ordre de sécurité qui sont impliquées, mais au même moment, ils sont des lauriers actuellement au regard du travail qu'ils abattent en ce qui concerne la sécurité.
D'accord, merci beaucoup. Oui, Justin.
Oui, je pense que on a l'obligation de ne pas encourager l'impunité. Et bien avant la sortie, les deux sorties du président de la Cour suprême, monsieur le juge Aboudoulaye Yaya, la présidente du Hashtoun a fait une sortie et a prévenu que le problème foncier au Togo, c'est une bombe à retardement. Et je ne peux pas comprendre que ce soit les juges du siège ou les juges du parquet, après la sortie du président Aboudoulaye Yaya, certains ont laissé entendre qu'ils n'avaient pas ou bien il n'a pas le pouvoir sur eux pour décider quoi que ce soit. Et après, il a fait une seconde sortie qui concerne cette fois-ci les auxiliaires de la justice. Les huissiers, les notaires, les commissaires, priseurs, ainsi de suite. Les avocats. Mais au jour d'aujourd'hui, le constat est là. Et qu'au-delà de ces deux sorties, ça ne dit rien. Donc ça fait qu'au point que, comme mon confrère le dit, c'est le ministre qui s'est investi. Donc je conclue en disant qu'aujourd'hui c'est mardi, non ? Bon, on parle de la culture. Pour vous informer que le concours Miss et PEP, donc pour le compte de cette année, la 15e édition, a été lancée le samedi dernier. Le président Kanyi Agbemedi, Alain Kon, appelé communément Alino, et son équipe s'affaire. Donc il demande à ce que les sponsors puissent quand même les aider.
D'accord.
À ce qu'il y ait cette année une réussite.
Le message est passé. Monsieur Nassini, rapidement, oui, votre contact, c'est un peu...
Oui, merci beaucoup, merci Pascal. Nous avons voulu en savoir beaucoup sur les IFAD et on n'a pas insisté sur le message du jour qui est le recrutement en cours dans les IFAD pour l'ensemble des formations que nous avons énumérées. Et la clôture, la date limite, c'est le 8 août. Donc, je pense qu'il faut largement relayer les informations sur les IFAD, les opportunités offertes, afin que les jeunes viennent s'offrir cette opportunité d'avoir une formation professionnelle qui va les positionner pour leur avenir.
Donc, il y a un contact rapidement.
Le contact de l'AED, en fait l'inscription se fait sur le site www.aed-6ifad.tg et quand on tombe sur ce site on a toutes les informations
possibles.
www.aed-ifad.tg
D'accord, merci
donc,
beaucoup.
Il y a les IFAD sont ouverts.
D'accord.
Pour ceux qui sont à Lomé, ils peuvent aller à l'IFAD bâtiment.
OK.
Il y a l'IFAD de Lavagno, il y a l'IFAD de Mango. Les jeunes, quand ils vont dans chaque IFAD, on va les aider.
Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Komi Nassini. Vous êtes, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence Éducation Développement AED. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Eric Johnson d'être passé. Adam Adronou, merci à toi. Justin Anani, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour intervenir dans ce débat avec nous. Merci à Michel Coco, Victor Guitomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.